Chapitre 49. Après avoir quitté l'entrepôt d'Ishak et avant d'aller acheter du fer pour Victor, Richard passa chez lui avec l'intention d'y rester 5 minutes. Pour dîner, bien entendu, mais surtout afin de prévenir Nietzsche qu'il retournait au travail. Insistant sur leur statut de mari et femme, elle avait clairement précisé qu'elle ne supporterait pas qu'il découche. Il devait rentrer chez lui après sa journée de labeur comme n'importe quel époux. Camille et un de ses amis attendaient le sourcier. Tous les deux portaient une chemise. Richard s'arrêta au pied de l'escalier. « Désolé Camille, mais je dois retourner au travail. »«
T'es encore plus idiot que je le pensais. Un crétin qui bosse le jour et la nuit. Ne te fatigue pas à essayer d'améliorer ton sort, mon gars. La vie te donne ce qu'elle veut, mais on ne peut rien y changer. Je savais que tu trouverais un prétexte pour te défiler. Dire que j'ai failli croire que... »
Puisque j'ai affaire plus tard, coupa Richard. Nous allons devoir nous y mettre tout de suite. Voilà ce que je voulais dire. Camille fit la moue, son tic préféré pour exprimer ce qu'il pensait des gens plus âgés et plus stupides que lui.
Je te présente Nabi. Il veut aussi te voir faire l'imbécile. Gadi, lui, trouve que nous perdons notre temps.
Richard fit mine de ne pas avoir remarqué l'arrogance de l'adolescent.
Ravi de te connaître, Nabi.
Le troisième membre de la bande, nommé Gadi, comme Richard venait de l'apprendre, le plus grand et le plus costaud de tous, observait la scène de loin dans le couloir, et lui n'avait pas de chemise. Pour desceller les marches, Richard utilisa son couteau et une barre de fer rouillée que Camille lui avait dénichée. Quand ce fut fait, sans trop de mal, vu l'état de l'escalier, il nettoya les gorges du limon, puis les recreusa un peu en expliquant à ses deux compagnons qu'il couperait en biseau les coins des marches pour qu'elles s'encastrent mieux dans leur logement. Puis, il regarda Camille et Nabi fabriquer des cales à partir du modèle qu'il avait taillé pour eux. Les deux adolescents furent ravis de lui montrer qu'ils savaient jouer du couteau. Richard, lui, se félicita que le travail avance plus vite. Quand tout fut remis en place, Camille et Nabi montèrent et descendirent plusieurs fois les marches, éblouis de ne plus les sentir branler sous leurs pieds, et secrètement enchantés, bien entendu, d'avoir contribué à leur réparation.
« Vous avez fait du bon travail !» dit Richard, parfaitement sincère.
En réponse, il obtint des sourires, pas des remarques sarcastiques. À la lueur d'une mèche passée dans un bouton de bois et flottant dans de l'huile de graines de lin, Richard dut se contenter d'un peu de millet à queue. L'odeur de la lampe de fortune n'étant pas plus appétissante que le plat, il n'y prit pas vraiment plaisir, mais il avait besoin de reconstituer ses forces. Ayant déjà dîné, Nietzsche l'encouragea à avaler toute la portion. Richard ne lui donna pas de détails au sujet de sa nuit de travail. Si elle insistait pour qu'il ait un emploi, elle ne s'intéressait pas à ce qu'il faisait. S'acquittant des tâches ménagères, elle attendait simplement de lui qu'il gagne de quoi subvenir à leurs besoins. Elle semblait satisfaite qu'il découvre les efforts inhumains que les gens ordinaires devaient consentir pour survivre. Quand il lui parla de l'argent supplémentaire qu'il allait gagner, en partie pour acheter de la nourriture, une étincelle passa dans les yeux de la sœur de l'obscurité, mais elle ne fit pas de commentaire. Richard remarqua qu'elle flottait dans sa robe noire. Les mains et les coudes osseux, elle dépérissait de jour en jour. Pendant qu'il mangeait, Nietzsche l'informa d'un ton neutre que le père de Camille était passé la voir.
« Et qu'a-t-il dit ?»« Puisque tu as un travail, le comité du logement du quartier a décidé d'augmenter notre loyer pour aider à payer celui des malheureux privés d'emploi. Tu vois comment fonctionnent les choses, sous le règne de l'ordre. Tout le monde contribue au bien commun. »
Tout ce que le groupe de travailleurs ne prenait pas finissait dans la poche du comité du logement ou d'une autre organisation de ce genre. Le motif était toujours le même, améliorer le sort des citoyens de l'ancien monde. En attendant, Richard et Nietzsche n'avaient plus les moyens de se nourrir. Le sourcier aussi avait maigri, mais un peu moins que la sœur de l'obscurité. Nietzsche semblait satisfaite qu'on ait augmenté leur loyer. Au moins, la nourriture n'était pas trop chère quand on en trouvait. Selon les citoyens, s'ils pouvaient manger, c'était uniquement grâce à la bonté du Créateur et à la sagesse de l'ordre. À l'entrepôt, Richard avait entendu parler d'un marché noir, où on pouvait se procurer tout ce qu'on voulait à condition d'en avoir les moyens. Hélas, il ne les avait pas. Sur le chemin entre la fonderie et le chantier, il avait remarqué un peu à l'écart de la cité des demeures qui semblaient superbes. Dans ces rues-là, les gens étaient bien habillés et certains se déplaçaient en calèche. Ces personnes ne se salissaient sûrement jamais les mains, et elles ne s'abaissaient sûrement pas à gagner leur vie, même en faisant des affaires. Les têtes pensantes de l'ordre avaient des principes. C'était sans doute pour ça qu'elles forçaient les travailleurs actifs à s'échiner pour les autres. « Se sacrifier est le devoir sacré de tout être humain », dit Nietzsche, consciente que Richard était très mécontent.
« Non, c'est un suicide. » L'obscène et inutile suicide des esclaves.
La sœur de l'obscurité regarda son prisonnier comme s'il venait d'affirmer que le lait maternel était un poison pour les nourrissons.
Richard, je ne t'ai jamais entendu dire quelque chose de si cruel.
Tu me trouves indigne parce que je refuse de me sacrifier pour un petit voyou comme Gaddy, ou pour d'autres ruffians que je ne connais pas? Il serait cruel de ne pas vouloir abandonner le peu que je possède à des gens prêts à m'égorger dans une ruelle obscure pour me détrousser. Se sacrifier pour une cause juste, la liberté par exemple, ou une personne aimée, est un acte logique et rationnel. Pour Callan, je n'ai pas hésité une seconde à jeter ma vie aux orties. Mais ce que tu prônes revient à être un esclave qui accepte de renoncer à son bien le plus précieux, son existence même, dès qu'un petit voleur minable lui demande.
Ce suicide est l'équivalent du fardeau qu'un maître impose à un serf. Puisque j'ai un couteau sur la gorge, ce n'est pas pour mon bien que je me dépouille de tout, mais pour celui du type qui tient la lame et des gens qui décrètent que cette horreur se nomme l'intérêt général.
Nietzsche, la vie n'a pas de prix. C'est pour ça qu'on peut la risquer pour défendre la liberté. Car sans liberté, on agonise à petit feu, contraint de souffrir à chaque instant pour le prétendu bien-être de l'humanité. Mais cette fameuse humanité n'est que la somme de tous les individus qui la composent. Pourquoi la vie d'un autre serait-elle plus importante que la tienne ou la mienne? Le sacrifice obligatoire est une infamie.
Tu ne penses pas un mot de ce que tu dis?
Souffla Nietzsche.
Épuisé et furieux parce qu'il te faut travailler de nuit pour joindre les deux bouts, tu te révoltes comme un adolescent. Réfléchis, et tu comprendras qu'aider les autres revient à t'aider toi-même, car tu seras tôt ou tard dans le besoin et bien content qu'on te tende la main.
Richard jugea inutile de polémiquer avec sa geôlière.
Je suis désolé pour toi, Nietzsche, parce que tu ne connais pas la valeur de ta propre vie. Du coup, la sacrifier ne te gêne pas.
C'est faux, Richard. J'ai gardé du millet pour toi afin que tu reprennes des forces. Moi, je n'ai pas mangé.
Tu veux que je reste en forme alors que ma vie n'a plus de sens?
Pourquoi t'es-tu privé de manger, Nietzsche?
Pour le bien des autres. Tu es prête à crever de faim pour n'importe qui? Même Gaddy? Tu t'affamerais afin qu'il puisse empiffrer? Tout ça aurait un sens si tu te sacrifiais pour quelqu'un que tu estimes. Mais là, tu risques de mourir au nom de l'idéal fumeux de l'ordre.
Voyant qu'elle ne répondait pas, Richard poussa son assiette devant la sœur de l'obscurité.
« Je ne veux pas que tu périsses pour rien. »
Nietzsche regarda fixement l'assiette de millet. Richard fut navré de constater qu'elle ne comprenait pas ce qu'il essayait de lui expliquer. Puis il pensa à ce que risquait Callan si sa mère nourricière tombait malade.
« Mange, Nietzsche, »
dit-il gentiment. La sœur de l'obscurité prit la cuillère et obéit. Quand elle eut fini, elle leva sur lui ses yeux bleus tellement avides de quelque chose que le sourcier ne pouvait pas lui montrer.
« Merci pour ce repas, Richard. »«
Pourquoi me témoigner de la gratitude? Je suis un esclave sans valeur, sauf lorsqu'il s'agit de me sacrifier pour le premier nécessiteux venu. »
Richard se leva, gagna la porte, l'ouvrit et se retourna.
« Maintenant, je dois y aller, sinon je perdrai mon travail. »
Des larmes aux yeux, Nietzsche hocha simplement la tête. Richard fit son premier voyage avec 5 barres sur les épaules. Derrière leur fenêtre, quelques personnes le regardèrent, stupéfaites de voir quelqu'un travailler ainsi pour son propre bénéfice. Ployant sous le poids, Richard se répéta que porter 5 barres lui permettrait de faire moins de voyages. Il procéda ainsi la deuxième et la troisième fois, puis décida de s'alléger un peu, quitte à ajouter un trajet et prit seulement 4 barres. Ses forces déclinant, il dut revoir ses prétentions à la baisse. L'avant-dernière fois, porter 2 barres lui coûta des efforts surhumains. Constatant qu'il lui en restait trois, il réussit l'exploit de les transporter jusqu'au chantier, s'économisant ainsi un peu de distance. À l'aube, le matériel rangé là où c'était prévu, il retourna à l'entrepôt d'Ishak où l'attendait une journée de travail. Pour ne pas être en retard, il décida de revenir voir Victor plus tard afin de toucher sa pièce d'argent. Comparé à ce qu'il venait de faire, charger le chariot lui parut être un jeu d'enfant. Jory étant aussi taciturne que d'habitude, il put se coucher dans le véhicule sur des sacs de charbon et dormir un peu, soulagé à l'idée d'avoir tenu la parole donnée au forgeron. En rentrant chez lui, épuisé, il découvrit que Camille et Nabil l'attendaient sous le porche. Tous les deux portaient une chemise presque propre.
« Nous avions hâte de te voir arriver pour finir le travail, » dit Camille.
« Quel travail ?» demanda Richard.
« Les marches ?»«
Nous nous en sommes occupés hier soir. »«
Et l'escalier de derrière ? Tu voudrais que quelqu'un se casse le cou en descendant aux toilettes ou en allant faire cuire quelque chose dans la cheminée commune ?»
C'était une épreuve. Et Richard comprit qu'il perdrait tout le fruit de son action s'il refusait.
Nietzsche passa la tête par la porte d'entrée.
« J'avais bien cru entendre ta voix. Viens, je t'ai préparé une bonne soupe. Tu as du thé ?»
La sœur de l'obscurité jeta un coup d'œil aux deux adolescents en chemise.
« Je peux en faire pendant que tu mangeras ?
Apporte plutôt tout ça dans l'arrière-cour si tu veux bien.
J'ai promis de réparer les marches.
Ce soir ? Il reste une ou deux heures de jour, je mangerai pendant que nous travaillerons. »
Camille et Nabi posèrent plus de questions que la veille. Le troisième larron, Gadi, toujours torse nu, vint plusieurs fois inspecter le chantier. Bien entendu, il se fit un devoir de reluquer Nietzsche quand elle apporta son thé et sa soupe à Richard. Lorsqu'il eut fini, le sourcier alla dans la chambre qui était jadis le salon d'Ishak. Retirant sa chemise, il s'aspergea le visage d'eau pour tenter de chasser la migraine qui le menaçait.
« Lave-toi la tête, » dit Nietzsche. « Je ne veux pas de poux ici. »
Richard ne jugea pas utile de mentionner qu'il n'avait pas de vermine dans les cheveux. Plongeant la tête dans l'eau, il se la frotta avec un morceau de savon râpeux.
Une décision qui lui épargnerait de longues palabres et lui permettrait de se coucher plus vite. Pour une raison qui le dépassait, Nietzsche avait la phobie des poux. Depuis qu'ils vivaient ensemble, misérable caricature de couple, la sœur de l'obscurité s'acquittait très bien de ses obligations. Elle entretenait la chambre, lavait la literie et les vêtements de son mari, tout ça sans jamais se plaindre de devoir aller puiser de l'eau au bout de la rue. Dès qu'il s'agissait d'imiter la vie des gens ordinaires, elle ne reculait devant aucun sacrifice. Obsédée par son étrange quête, elle s'investissait dans son rôle au point d'oublier parfois qu'elle était une sœur de l'obscurité. Richard, lui, ne perdait jamais de vue qu'il partageait un toit avec sa geôlière et non avec une femme comme les autres. Quand il eut fini de se rincer les cheveux, il demanda à brûle-pourpoint
« Qui est le frère Narev ?»
Assis sur son lit, Nietzsche cessa de repriser un pantalon et releva les yeux. Ne ressemblant plus du tout à une épouse modèle, elle répliqua d'une voix menaçante
« Pourquoi cette question ?»«
Je l'ai rencontré hier chez le forgeron. »
« Sur le chantier ?»«
Oui, je devais livrer des barres de fer. »
Nietzsche se concentra de nouveau sur son ouvrage. Puis elle s'interrompit de nouveau, apparemment décidée à répondre.
« Le frère Narev est le haut prêtre de la confrérie de l'Ordre, une très ancienne secte résolue à imposer la volonté du Créateur sur le monde. Il est l'âme et le cœur de l'Ordre impérial. Bref, son guide spirituel... Avec ses disciples, il s'assure que les citoyens de l'ancien monde ne s'écartent jamais de l'éternelle lumière du Créateur. De plus, il est le conseiller de l'Empereur. »
Richard fut stupéfié par tout ce que la sœur de l'obscurité savait sur les arcanes du pouvoir au sein de l'Ordre. Soudain sur ses gardes, il posa une nouvelle question.
« Quelle sorte de conseiller ?»
Nietzsche recommença à coudre, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps.
« Le frère Narev était le tuteur de Jagang. C'est lui qui l'a formé et éduqué. Sans son enseignement, l'empereur ne se serait jamais lancé dans sa sainte croisade.
Narev est un sorcier, n'est-ce pas ? » Nietzsche releva la tête. Dans son regard, il lut qu'elle hésitait à répondre, consciente qu'il attendait d'elle toute la vérité, comme elle l'avait promis au début de leur curieuse aventure.
Un profane pourrait le définir comme tel.
Que veux-tu dire?
Les gens qui ne connaissent rien à la magie ne feraient pas la différence, mais à strictement parler, Narev n'est pas un sorcier.
Et qu'est-il donc dans ce cas?
Un magicien.
Richard en resta muet. Pour lui, les mots « sorcier » et « magicien » étaient synonymes. En réfléchissant, il s'avisa qu'on utilisait le premier pour les hommes et le second pour les femmes. S'il arrivait pour l'insulter qu'on traite une magicienne de sorcière, il n'avait jamais entendu quelqu'un parler d'un magicien.
« Une personne comme toi, mais du sexe opposé ?»«
C'est une façon de présenter les choses très imprécises. Si tu veux comparer, un magicien a plus de points communs avec un sorcier qu'avec une magicienne, puisque tous les deux sont des hommes. » Pourtant, ils sont très différents.
Nietzsche, j'ai travaillé toute la nuit et toute la journée, et je ne tiens plus debout. Essaie d'être plus clair, je t'en prie.
La sœur de l'obscurité fit signe au sourcier de prendre place en face d'elle sur l'autre lit. Après avoir remis sa chemise, Richard s'assit en tailleur et étouffa un bâillement.
Le frère Narev est un magicien. Désolé, mais la différence est difficile à expliquer. Je vais tenter de parler simplement, pourtant. Tu dois comprendre que certaines nuances exigent un discours subtil, sinon elles disparaissent purement et simplement. Les sorciers et les magiciens se ressemblent, certes. Mais il y a un monde entre eux, un peu comme entre l'eau et l'huile. Ces deux liquides peuvent être chauffés, par exemple, mais ils ne se mélangent pas, et beaucoup de leurs propriétés sont différentes. Le pouvoir d'un sorcier ne peut pas être combiné à celui d'un magicien, et ils interviennent dans des domaines différents. En matière de magie, rien de ce qu'ils pourraient tenter l'un contre l'autre ne marcherait. Les deux ont le don, c'est entendu, mais leur pouvoir se neutralise.
Parce qu'ils sont opposés, comme les magies additives et soustractives?
Non. À première vue, l'image paraît pertinente, mais c'est la pire façon d'aborder le problème. Comment expliquer ça à quelqu'un qui ne comprend pas le fonctionnement de son propre don? Il te manque les bases requises pour saisir ce que je pourrais te dire. Pour être franche, ces concepts sont au-delà de ta compréhension.
Prenons les choses différemment dans ce cas. Un loup et un cougar sont tous les deux des prédateurs, mais ils n'appartiennent pas à la même espèce. C'est ça?
Non, mais tu t'approches de la vérité.
Et il y a beaucoup de magiciens?
Ils sont aussi rares que ceux qui marchent dans les rêves, comme Jagang, et que les sorciers de guerre.
Même s'il ne saisissait pas les concepts, comme le lui avait dit Nietzsche, Richard fut perturbé par cette révélation.
Et quelles sont les caractéristiques d'un magicien?
Je ne suis pas une experte, tu sais. D'après ce que j'ai entendu dire, un magicien lance en gros les mêmes sorts qu'un sorcier, mais la qualité de son pouvoir est différente. L'eau de vie et la bière peuvent saouler quelqu'un, pourtant leurs compositions n'ont pas grand-chose en commun.
Mais l'une des deux est plus forte que l'autre.
Il n'en va pas ainsi avec les sorciers et les magiciens. Comprends-tu pourquoi les discours simples et les comparaisons de ce genre sont inadéquats? La puissance d'un sorcier ou d'un magicien dépend de chaque individu, pas de la nature du pouvoir qu'il détient.
Richard gratta sa barbe de 3 jours et réfléchit. Si les deux avaient un pouvoir, il ne voyait pas en quoi il y avait une différence, majeure en tout cas.
Un magicien a-t-il des aptitudes qu'un sorcier n'a pas?
Demanda-t-il. Nietzsche baissa les yeux sur son ouvrage comme si elle refusait de poursuivre la conversation.
Le jour de ma capture, tu t'en souviens sûrement. Tu as promis de ne jamais me mentir ni me cacher quelque chose.
La sœur de l'obscurité regarda Richard dans les yeux. Puis elle détourna la tête et, pour se donner une contenance, écarta de son front une mèche de cheveux vagabonde. Ce geste rappela Callan à Richard, qui en eut le cœur serré.
Je t'ai juré d'être sincère, c'est vrai. Pour répondre à ta question, je pense que le frère Narev est parvenu à dupliquer le sort qui enveloppait le palais des prophètes. Pour créer ce sortilège il y a des milliers d'années, il a fallu des sorciers qui contrôlaient les deux facettes de la magie, comme toi. Une des différences majeures entre les magiciens et les sorciers, selon moi, est que le pouvoir des premiers, contrairement à celui des seconds, ne peut pas être réduit à ses éléments constitutifs. En d'autres termes, il est global, si tu vois ce que je veux dire. Avec sa magie en quelque sorte universelle, le frère Narev a dû être capable de comprendre comment les sorciers de jadis ont structuré le sortilège du palais des prophètes. Ensuite, il n'a plus eu qu'à le reproduire à sa manière.
Tu parles du sort qui ralentit le vieillissement? Il est en mesure de le lancer?
Oui. Jagang me l'a indirectement révélé. Richard, dans ma jeunesse, j'ai connu le frère Narev. À l'époque, c'était déjà un homme d'âge mûr et un visionnaire qui tentait d'imposer la doctrine de l'ordre. Je l'ai entendu émettre le souhait de vivre assez longtemps pour voir les fruits de son travail. Quand je suis parti vivre au palais de Tanimura, ça a dû lui donner une idée puisqu'il y est arrivé peu après moi. Les sœurs le prenaient pour un simple garçon d'écurie. Son don étant différent de celui d'un sorcier, elles ne l'ont jamais détecté. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il est surtout venu au palais pour étudier le sort et le reproduire un jour.
Il aurait pu prendre le contrôle du palais et n'avoir pas à se donner tout ce mal.
C'était sans doute son plan originel. D'ailleurs, Jagang a essayé de le réaliser, mais Narev a dû étudier le sortilège avec l'idée de le dupliquer en l'améliorant.
Richard se massa le front pour chasser sa migraine.
Tu veux dire qu'il prévoit de jeter sur le fief un sort qui ralentira encore plus le vieillissement?
Quelque chose qui rapprocherait Jagang et ses fidèles de l'immortalité?
Oui. N'oublie pas que le temps et l'âge sont des notions relatives. Pour quelqu'un dont l'espérance de vie est de 1000 ans, un siècle ne représente pas grand-chose. Mais si on peut compter sur 100 siècles d'existence, disparaissent un laps de temps ridicule. Je crois que le frère Narev a effectivement découvert le secret d'une sorte d'immortalité. Jagang voulait conquérir le palais des prophètes pour que son maître à penser modifie le sortilège.
Mais j'ai saboté son plan.
Exactement. À l'instar de tous ceux qui vivaient au palais, le frère Narev vieillit désormais comme n'importe qui. Sans la protection du sortilège, on commence à glisser vers sa tombe et l'issue est inéluctable. Narev entend certainement préserver ce qui lui reste de jeunesse. Être un vieillard immortel n'a pas tellement d'intérêt si on réfléchit bien. En détruisant le palais, où il était à l'abri du temps, tu l'as forcé à agir plus vite que prévu.
Épuisé, Richard s'étendit sur son matelas. Il a commandé au forgeron un ouvrage en fer qui est en réalité une rune magique géante. Ou la représentation physique d'un sortilège, si tu préfères. Maître Casquel a ne sans doute pas bien entendu. Tout ce qu'il sait, c'est que son œuvre sera plus tard dorée à leur fin.
Une question de pureté, dit Nietzsche. À moins qu'il s'agisse simplement d'un modèle avant la fabrication d'une rune en or massif.
Si tu as raison, on peut supposer que Narev veut avoir plusieurs runes en or qui travailleront ensemble.
Oui, c'est très possible.
La vie du forgeron est-elle en danger?
Non, parce qu'il s'agit d'un sort bénéfique. Quel que soit le but final, sa fonction est d'allonger la vie et ça ne peut pas être mauvais pour ton nouvel ami.
Qui sont les disciples de Narev?
De jeunes sorciers du palais des prophètes.
Richard se redressa soudain très pâle.
J'ai vécu au palais. Ils me reconnaîtront.
Non, parce qu'ils sont tous partis avant ton arrivée.
Au moins, ils détecteront mon pouvoir.
Pour ça, ils ne sont pas très doués. Comparé à toi, ce sont de misérables insectes.
Ce compliment ne réconforta pas le sorcier.
Peut-être, mais Narev et ses disciples ne risqueront-ils pas de te reconnaître? S'ils me voient, ils sauront qui je suis, c'est certain.
Le frère Narev doit avoir un don très puissant. Tu crois qu'il a pu sentir que j'ai un pouvoir?
Il m'a dévisagé puis demandé si nous nous connaissions. Pourquoi l'as-tu pris pour un sorcier?
Eh bien, à cause de petits indices. Sa façon de se comporter, de regarder les autres, de parler. Dès que j'ai compris, il m'est apparu évident que l'objet qu'il fait fabriquer au forgeron est une rune géante.
S'il te soupçonne d'avoir le don, ce sera à partir des mêmes indices. Tu sais reconnaître les gens comme nous.
Oui, surtout à cause de leur regard.
plein d'une sagesse sans âge. Et je vois aussi leur aura dans certaines circonstances. Autour de toi, par exemple, l'air crépite parfois d'énergie magique. Nietzsche ne cacha pas sa fascination.
Je n'ai jamais entendu dire une chose pareille. C'est sans doute parce que tu contrôles les deux facettes de la magie.
Toi aussi? Tu vois la même chose?
Non, mais n'oublie pas que je ne suis pas né avec le don soustractif.
Pour l'acquérir, Nietzsche avait dû vendre son âme au gardien.
Tu n'as rien vu de tel chez Narève, n'est-ce pas?
C'est vrai.
Parce que vos pouvoirs sont différents, comme je te l'ai expliqué. Tu l'as identifié grâce à ton expérience, d'une manière qu'on pourrait appeler intellectuelle. Sa magie ne peut pas davantage l'aider à te démasquer. S'il ne réfléchit pas aux indices qu'il a captés, comme c'est probable, il ne te percevra pas à jour.
Sans le dire vraiment, Nietzsche suggérait à Richard qu'il ne fallait pas que Narève sache qu'il avait le don. En somme, elle l'incitait à être prudent. À certains moments, le sourcier croyait lire clairement le jeu de la sœur de l'obscurité. À d'autres, il n'y comprenait plus rien. Parfois, il pensait qu'elle lui jetait ses convictions à la figure, avec l'espoir secret qu'il parvienne à l'en détourner, comme si elle avait été perdue dans une forêt obscure, attendant qu'il lui montre le chemin pour en sortir. Mais dès qu'il contestait ses arguments, elle s'énervait, ou pis encore, semblait puiser dans son opposition la force de croire encore plus aveuglément. Mort de fatigue, Richard s'étendit sur son lit et ferma à demi les yeux. Impassible, Nietzsche reprit ses travaux de couture. Une des femmes les plus puissantes et dangereuses du monde paraissait se contenter de jouer les petites mains. Comment était-ce possible? S'étant piqué avec l'aiguille, la sœur de l'obscurité fit la grimace et secoua violemment la main. À travers le sort de maternité, Callan avait dû sentir la douleur. Cette seule idée donna envie de vomir à Richard.